Ndenga News, le journal.
46 cas de choléra ont été déclarés depuis un peu plus de 2 semaines dans la zone de santé de Poueto. C'est ce qu'a expliqué le communicateur de la zone de santé ce mardi 20 mars 2023 dernier lors d'une rencontre avec les autorités locales au bureau central. Ici, le manque des intrants à cet hôpital et bien d'autres matériels de traitement sont parmi les difficultés que rencontrent les infirmiers dans la prise en charge des malades. Détails dans cette édition du journal. Pendant ces temps, la route nationale numéro 1, tronçon Bougimay-Moneditou, est devenue un calvaire vu son état pité. C'est une véritable épreuve pénible qui traverse les passagers sur la route nationale longue de plus de 120 km partant de Moneditou dans la province de Lomami en Bougimay-Gassé-Oriental. Sylvain Fizemokadi nous en dira plus dans cette édition du journal. Et enfin, au Nord Kivu, la guerre des terroristes du M23 est à la base des catastrophes écologiques dans la partie est de la RDC suite au déboisement du parc national de Virunga. C'est le point de vue de l'activiste environnemental et forestier Maître Olivier Ndoulé ce mardi lors de la journée internationale des forêts. Celui-ci plaide pour la cessation de la guerre en vue de sauver l'écosystème menacé. Messieurs et dames, bienvenue une fois de plus sur Ndenga News FM. Paul Ilunga Boniface, c'est moi la présentation de ces radiojournales. Fabien Kibangula assure la partie technique. Nous sommes au Tanganyika en tant que dignes fils pour primer les personnes qui se sont distinguées dans leur travail. Voilà, c'est ce qui a été au centre de la tenue d'un point de presse académie organisé par l'initiateur des Tanganyika Awards ce jeudi 23 mars 2023. Cet événement culturel de grande ampleur vise à récompenser différentes personnes suivant leur métier et critères. Cet événement culturel connaîtra la participation pour les galas de l'artiste Mjo Ezuka et les humoriste Herman Amissi Didadi est une première en province du Tanganyika. Selon Joseph Kalonda Barnabé, son initiateur, cette première édition des Tanganyika Awards est une nouveauté qui vient une fois de plus encourager les métiers des uns et des autres en incluant l'amour et l'unité entre communautés. Je vous propose ici Monsieur Joseph Kalonda Barnabé, initiateur des Tanganyika Awards, qui nous parle des particularités de cet événement dans cet extrait choisi par James Sekatou.
En ce qui concerne le projet Tanganyika Awards, c'est un projet qui a bouillonné en nous il y a assez longtemps. Nous avons le devoir en tant que Tanganyikais, fils et filles du Tanganyika, d'honorer notre province, de vendre notre province positivement. J'ai senti à moi le devoir de commencer ce projet. Nous avons choisi de le faire maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est le mois de mars et nous avons songé à honorer la femme tanganyikaise. Alors c'est un projet qui n'appartient pas à l'initiateur, que je suis, mais c'est un projet qui appartient aux Tanganyikais, à tout le monde, à tout celui, n'est-ce pas, qui comprend cette vision-là, qui se sent dans le devoir de promouvoir, de faire parler notre province. Si nous rentrons un peu en arrière, dans le grand Katanga à l'époque, vous avez entendu parler du Katangawa, Folé à Kinshasa, on a aussi entendu parler d'autres projets, n'est-ce pas, culturels. Il était temps que le Tanganyika puisse aussi faire parler de nous, parce que nous sommes une province à part, et nous avons été pendant longtemps presque dans les oubliettes. Alors j'ai saisi cette opportunité, j'ai senti le besoin et le devoir maintenant pour que nous puissions avoir cette opportunité. C'est un événement, je le répète, qui m'appartient. Je ne suis qu'une serveur, seul je ne peux rien faire. D'ailleurs, si nous en sommes à ce jour, vous voyez, nous avons toute une équipe ici, avec la participation de chacun. La volonté et l'amour que nous pouvons réussir ensemble.
Il faut dire que c'est ce samedi 25 mars 2023 qu'il y aura la soirée des galas et décernement des trophées nominés de cet événement culturel Tanganyika Awards à l'espace Kwamama dans la ville de Kalemie. Autre actualité, inauguration, c'est 23 mars 2023 à Kalemie d'un nouveau bâtiment du centre médical Shalom. La cérémonie inaugurale a eu lieu dans les alentours de cette structure sanitaire au quartier Kainda sur la rue du Général. Pour le docteur Tampon Kiboko, médecin directeur du centre médical Shalom, sa structure vient disposer les soins de qualité à la population de la ville de Kalemie à travers plusieurs spécialités. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jérôme Batang.
L'honneur soit rendu d'abord au Seigneur Jésus parce que c'est lui qui est le maître de cet ouvrage. Vraiment, Ceci était un souci profond. Avoir d'abord une petite structure où nous pouvons rêver un peu dans le sens de faire mieux dans l'accompagnement de la population de Calais. Ça nous tient à cœur quand nous voyons des gens font toujours des déplacements vers le Burundi et d'autres qui décèdent là-bas. Ça pose problème. L'équipement pourra davantage suivre pour bien rendre les soins spécialisés, mais le cadre était d'abord les premiers pas. Pour ces premiers pas, je suis très content parce que je sais que derrière, les activités vont continuer dans le sens à faire la joie de la population. Ce n'est pas la fin. Normalement, dans les projets de la Fondation, et que la structure arrive même à 120 lits. Parce que c'est une partie qui est inaugurée, mais la grande partie est encore en construction. En fait, la particularité, c'est vraiment centrer les soins dans le cadre de façon humanisée. Considérer la personne à son titre et puis le respect.
Branchez-vous sur Ndenga News sur 104.0 MHz, la référence de l'information.
Dans le Haut-Katanga, au total 46 cas de choléra ont été déclarés depuis un peu plus de 2 semaines dans la zone de santé de Poueto. C'est ce qu'a expliqué le communicateur de la zone de santé c'est mardi 20 mars 2023 lors d'une rencontre avec les autorités locales au bureau central. Parmi ces malades figurent 23 hommes et 23 femmes, dont jusqu'à ces jours, on rapporte 39 cas guéris et 3 décès, a-t-il indiqué. Les manques des intrants à cet hôpital et bien d'autres matériels de traitement. Le non-paiement des personnels soignants sont parmi les difficultés que rencontrent les infirmiers dans la prise en charge des malades. On l'écoute dans ses propos recueillis par notre permanent Bertin Kalembe.
Le total des cas que nous avons reçus jusque-là, c'est 23 masculins, c'est-à-dire hommes, et 23 féminins, et 3 décès, et 39 guéris, et 1 hospitalisé qui est au CTC. Et les aires de santé qui étaient les plus touchées, donc on avait Kabilele qui était le plus touché, il y a aussi Boma, il y a Kamakanga, il y a Mumbalanga. Mais quelques investigations ont été faites, nous ne sommes pas restés comme ça. Et nous avons fait quelques investigations. On a trouvé que la cause la plus probable était une mauvaise gestion des déchets. Donc il y a les déchets ménagers, vous voyez, avec la pluie. Et aussi un autre problème, c'est la quantité insuffisante, bien sûr, de l'eau que les gens sont en train de consommer. Et quelques actions ont été menées. Entre autres, la notification de cas, il y a l'investigation en même temps des cas que je venais de parler plus haut. Il y a aussi un plan de contingence qui a été organisé, ça vous le savez bien. Il y a l'axe communautaire, il y a aussi par rapport à la prise en charge. Nous voulons en fait vous dire aussi, pour que nous puissions parvenir cette fois-là, dans les 90,6%, il fallait qu'il y ait des gens par-ci par-là pour qu'ils nous viennent aux rescousses. Entre autres, la communauté elle-même. Il y a aussi des responsables des officines qui nous ont aidés totalement. Et aussi la fondation, puisque nous avons fait un cri de détresse et nous a aussi aidés. Et il y a même les hôpitaux qui se sont organisés eux-mêmes. Il y a Tchamfoubou, il y a le PMC et il y a aussi l'hôpital Tchamfoubou. Ce sont les quelques situations qu'on voulait en fait vous donner.
À Manono, un sujet philippin et un Congolais, tous agents de la société Tantalex, sont aux arrêts depuis ce 22 mars 2023. Ces derniers sont aux arrêts provisoires pour le fait d'avoir foulé au pied la décision de l'administrateur des territoires de Manono, laquelle décision qu'il interdisait à toute personne d'emprunter la nouvelle route tracée par la société Tantalex. Kitanga Kabale Cyprien, administrateur de Manono, dit avoir autorisé l'arrestation de ces derniers après qu'il les a trouvés en flagrance délit de fréquentation de cette route en violation de sa décision, pendant que la décision de fermeture de cette route était prise depuis le 14 mars 2023 dernier, mais la société en question continuait d'y fréquenter. L'autorité territoriale précise en outre que la société Tantalex avait tracé cette nouvelle route au mépris et en violation de loi de la République démocratique du Congo, et cela sans aucun paiement des taxes de l'État. Kitanga Kabale Cyprien, administrateur de Manono est au micro de notre permanent Noé Mwamba.
Oui, c'est certes, nous venons d'arrêter, comme vous venez de le dire, deux citoyens congolais, un blanc là, qui avait, nous avons pris la décision de la route Antalex est fermée jusqu'à ce qu'ils vont payer les taxes de l'État. Maintenant, notre grande surprise, ils n'ont pas obéi à notre décision, c'est pourquoi nous avons pu nous-mêmes nous rendre là pour voir si la décision a été exécutée. Sur les chats, on a trouvé un véhicule en crisère. Il y avait deux sujets, un Congolais et un Philippien. Alors, nous les avons déférés aux instances judiciaires et les dossiers et l'instruction. Oui, nous avons arrêté. Ils doivent commencer à respecter la loi et les décisions des autorités politico-administratives dont nous sommes. Nous représentons l'État, nous représentons la province. Ils ne peuvent pas venir faire de n'importe quoi au Congo. Ils doivent se conformer. Et jusque-là, ils vont subir la rigueur de la loi au niveau de notre pays.
Les journalistes et les faiseurs de rois dans le monde. Comme je l'ai dit au sommaire, la route nationale numéro 1, tronçon Mbujimayi-Moneditou, est devenue un calvaire vu son état pété. C'est une véritable épreuve pénible que vivent les passagers sur la route nationale partant de Moneditou dans la province de Lomami, en Mbujimayi, au Kasaï oriental. Ce tronçon routier long de plus de 120 km est asphalté depuis plusieurs dizaines d'années. En plus d'être délabré, constitue depuis des années une sorte de chemin de la mort pour les personnes qui l'empruntent. Plusieurs cas d'accidents mortels sont déjà signalés dans le passé et les usagers s'interrogent si les travaux de réhabilitation et modernisation lancés au mois de janvier dernier par le ministre des ITP, Alexis Guissaro, auront quel impact, car ne connaissant pas d'avancée, Sylvain Fizemokadi revient avec d'amples détails dans cet élément de reportage.
À plusieurs endroits, de bourbiers compliquent le passage et obligent les personnes à bord de véhicules de faire le pied alors que les chauffeurs se débrouillent comme des diables pour sauver les engins et éviter les pires. Si la tâche est difficile pour le conducteur moto et pour ceux de véhicules petits porteurs, c'est beaucoup plus complexe pour des engins lourds. Pour ceux-ci, une moindre erreur occasionne un accident grave. C'est le cas de ces véhicules qui s'est renversé le week-end dernier à Benampunga, chefferie des Kalonges Sud, au territoire de Chilengi, à quelques kilomètres de la frontière entre la Lomami et le Kasaï oriental. L'accident a coûté la vie à 3 personnes. Les bourbiers viennent, dans l'ensemble des terres rouges, jeter sur la chaussée pour couvrir les nids de poules. Malheureusement, au passage de la pluie et de gros porteurs, tout se transforme en pâte et les calvaires commencent. Sommes-nous avec les travaux de réhabilitation et modernisation de cette route lancée il y a plus de 2 mois? Cette question vaut son pesant d'or au regard du silence qui s'observe sur terrain. En date du mardi 3 janvier 2023, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, avait procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation de la RN1 dans son tronçon compris entre Mbujima et Moneditou. Les patrons des ITPR avaient fait savoir que ces projets consistaient à la réhabilitation et modernisation de la RN1 et pouvaient se dérouler dans une période de 12 mois. Jusqu'à nos jours, rien de rassurant sur terrain. Depuis, la province de Lomami, Sylvain Fizemukadi, Ndenga News FM.
Ndenga News, sur l'ensemble des territoires de la province du Tanganyika jusque dans la région du Grand Lac, la meilleure de l'information des proximités.
Dans un autre chapitre réuni autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, les membres du comité des conjonctures économiques notent une amélioration dans les exportations de l'or ici de l'exploitation artisanale depuis la mise en action des Primera Gold. C'est ce qu'a déclaré le ministre d'État, ministre du Budget, au sortir de la réunion qui a traité aussi la situation économique au niveau national qu'international. Le comité des conjonctures économiques a analysé par la même occasion les différents rapports au niveau international. Interne qu'externe. Plus de détails avec Guillaume Goyam ici.
Cette spéculation engendre des conséquences néfastes sur les prix des biens de première nécessité sur les marchés. Au marché parallèle, on a observé les taux qui varient entre 2250 et 2350 francs congolais pour un dollar américain, a fait savoir le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji.
Cet effet est pour fixer l'opinion. Il allait de dire que les chiffres nous communiqués par la Banque centrale du Congo révèlent que le franc congolais est demeuré relativement stable au cours des dernières semaines. Et à la date d'aujourd'hui, le franc congolais s'est échangé à un taux de 2035 francs congolais contre le dollar américain sur le marché officiel. Et au marché parallèle, l'on a observé des taux qui varient entre 2250 et 2350 francs congolais pour un dollar américain.
Au sujet de la décélération de la formation du prix intérieur, Aimé Bojisangara a souligné que le pays fait face à une spéculation qui prend de plus en plus forme. Il s'agit notamment de la publication au quotidien par la Banque Centrale du Congo des taux des francs congolais dans les médias locaux et ensuite la Banque Centrale va procéder à un suivi permanent des taux sur les marchés parallèles, a conclu le ministre d'État, ministre du Budget.
Et cette décélération s'observe notamment à Kinshasa, dans la capitale de notre pays, à Lubumbashi et à Goma. Il va donc sans dire que nous faisons face à une spéculation qui prend forme autour de la question du taux du franc congolais. Et c'est pourquoi certaines mesures ont été préconisées pour apporter la bonne information et mettre fin à cette spéculation.
Intervenant à son tour, la gouverneure de la Banque Centrale du Congo, Madame Malunga Kabedi, a soutenu que désormais les Congolais seront tenus informés régulièrement des taux de la parité du franc congolais par rapport aux autres devises, notamment les dollars américains. Depuis Kinshasa, Guillaume Goyamissi pour la radio Ndenga FM.
Autre actualité, la tenue de la table ronde de paix et développement à Bukavu au site Kivu ne rassure pas certains acteurs de la société civile. Ces derniers restent sceptiques de la manière dont se déroulent ces assises qui risqueraient de ne pas apporter une solution au problème en ce sens que Kinshasa étant à la base du sous-développement du site Kivu. C'est le même Kinshasa qui organise cette table ronde. C'est le point de vue qui a été donné à la presse par Adrien Zawadi, président du bureau de coordination de la société civile au site Kivu. Celui-ci pense également que quand on organise une table ronde, tous les fils et filles du site Kivu devraient faire partie de cette discussion, ce qui n'est pas le cas. Adrien Zawadi, président du bureau de coordination de la société civile au site Kivu, est au micro de Jocelyne Baiga.
La première inquiétude, c'est de savoir est-ce que ce n'est pas une autre table ronde, une rencontre de plus qui ne changera rien sur le quotidien de la population du site Kivu. La deuxième des choses est et c'est la plus grande inquiétude pour nous, la société civile, c'est qu'on constate que nous connaissons d'où viennent les problèmes et les malheurs du Sud Kivu. Mais on constate que Kinshasa, qui est à la fois partie au problème, Kinshasa veut être aussi partie à la solution. Et tous les malheurs du Sud Kivu, à 80-90%, viennent de Kinshasa. Mais c'est Kinshasa encore qui organise une table ronde, c'est Kinshasa qui invite. Ça, c'est une grande crainte. La deuxième grande crainte, c'est de voir que justement, les fils, ceux-là que nous appelons les notables du Sud Kivu, qui pensent que la province du Sud Kivu, c'est leur jardin où ils envoient des jardiniers cueillir de fruits et leur envoyer ce fruit-là, ces gens-là ne sont pas ici avec nous. Ceux qui décident sur l'avenir du Sud Kivu ne sont pas ici avec nous. Comment pensons-nous que les résultats de ces assises leur sera opposable? Parce que nous, on souhaitait qu'eux, ils soient là et que nous, population, nous leur disions ce qu'ils ont fait du bien et ce qu'ils ont fait du mal à la province du Sud Kivu. C'est ça la table ronde que nous voulons. Là où les autres provinces organisaient des tables rondes, c'est tous les fils originaires de ces provinces-là qui sont descendus pour parler, pour se réconcilier, pour se regarder dans les yeux, se demander pardon et décider de prendre un nouveau élan pour les provinces. Mais si chez nous, vous avez vu la configuration, ceux qui sont ici, ce n'est pas ceux-là que nous attendions. Et donc ça, c'est la plus grande inquiétude. Mais on ne peut pas être prophète du malheur. Nous vous espérons que ces assises vont sortir des résultats qui seront opposables à tous ces gens-là.
Même son de cloche pour les habitants de la province croisée dans les rues de la ville de Bukavu. Certains pensent que c'est inopportun que cette table ronde soit organisée alors que bon nombre de la population ne sont pas informés de la tenue de cette dernière et même plusieurs notables du site Kivu ne sont pas au courant. Suivez tour à tour le point de vue de certains citoyens de la province du site Kivu qui se sont exprimés au micro de Jocelyne Baiga.
Donc l'habité du site Kivu est bien connu, mais c'est les uns sont à Kinshasa, les autres au site Kivu. Parce que là, je n'ai pas encore entendu que les représentants légitimes, les représentants légaux de la population du site Kivu, elle est dans une table ronde pour amener la paix et le développement au site Kivu. Quelle est cette délégation qui est venue? Quels sont les notables qui sont appelés pour qu'ils puissent dialoguer aujourd'hui pour l'intérêt du site Kivu, pour l'intérêt de la paix qui a toujours manqué pour l'intérêt du développement du site Kivu? Alors que jusque-là, je ne sais pas s'il y a vraiment une table ronde au site Kivu. Personne ne connaît pour la population du site Kivu. Ça doit être un truc qui est organisé par certains gens qui pensent qu'il faut faire ceci, ceci pour leurs intérêts, pour leur stratégie de maintien au pouvoir ou de retour au pouvoir, je ne sais pas.
Il faut que les conflits se terminent, qu'il y ait un climat de paix qui va permettre à chacun de prendre les idées positives qu'il a et les efforts à fournir et les mettre dans la province pour investir. Là, on peut parler de développement. Si la tête est malade, même la Bible le montre, si la tête est malade, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Comment les habitants sud-ici, peuvent s'attendre à quelque chose comme développement, comme émergence, comme avancée significative? Comment vont s'entendre à cela alors que sur la tête c'est rempli de conflits? C'est ce que l'on doit éviter. Si les problèmes de sécurité, comment on va parler de la paix? Comment on va parler du développement là où l'insécurité règne? Tout ça sont des problèmes qui gangrènent aussi toute la société et on a du mal à se développer. Que les autorités soient regardent ce qu'ils peuvent faire par rapport aux problèmes de sécurité. Avec les dirigeants à la tête ici de la province, ne nous facilitez pas la tâche de vivre avec paisibilité. Beaucoup de conflits avec la population et les services de sécurité. Bon, donc, si ce forum peut nous aider alors à régler, je sais qu'on ne peut pas tout terminer à la fois, il y en a beaucoup.
La guerre des terroristes d'IM23, comme je l'ai dit tantôt, est à la base des catastrophes écologiques dans la partie est de la RDC, suite au déboisement du parc national de Virunga. C'est le point de vue donné par l'activiste environnemental et forestier Maître Olivier Ndolé ce mardi lors de la Journée internationale des forêts. Celui-ci plaide par l'occasion pour la cessation de la guerre en vue de sauver l'écosystème menacé. L'autre impact négatif de la guerre, signale-t-il, c'est la menace de l'industrie touristique dans la région par la destruction de la forêt du parc de Virunga qui a attiré de nombreux touristes. Maître Olivier Ndolé, l'activiste environnemental et forestier dans la province du Nord qui vous est au micro de Germain Tchikourou.
On la célèbre sous une situation beaucoup plus catastrophique, dramatique, caractérisée par une catastrophe écologique au niveau notamment de Kibati, Kibumba, donc dans le parc national de Virunga, et même si vous allez vers le Grand Nord, c'est la même chose. Des envahissements, des questions de déforestation liées au déplacement des déplacés, aussi l'absence d'une politique humanitaire qui cadre beaucoup plus avec les impératifs environnementaux. Et avec des risques liés, si vous voulez, à l'avenir, non seulement social, surtout à ce qui concerne la population vers Kibumba et autres qui ne dépendent que de la pluie pour avoir l'eau. Et donc, avec cette catastrophe, on ne sait pas ce que sera la sauvegarde sociale pour le monde de demain. Et l'autre aspect, c'est cette production législative qui est là, qui met en place des dispositifs pour les communautés locales pour les rendre beaucoup plus responsables dans la gouvernance du régime forestier qui s'étend et qui crée même, si vous voulez, des droits réels liés à l'exploitation forestière, c'est-à-dire quand on parle de la forêt, il y a les essences d'arbres, il y a les terroirs, et aussi on voit aussi l'eau, c'est-à-dire la pêche, il y a aussi les questions médicinales qui sont aussi couvertes par la forêt. Le parc national de Virunga a pour vocation la conservation de la nature, le tourisme, et maintenant avec le contexte de guerre, Virunga semble ne plus de manière de fait avoir la vocation pour laquelle les communautés locale et même l'État congolais et la communauté internationale ont mis en place des dispositifs.
Messieurs et dames, ce journal est arrivé à la fin. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.